c'est l'heure du débat des grandes voix. Avec vous, François Closse et vos invités ce soir, Michel Cotta, grande voix d'Europe 1, Jérémy Pelletier, directeur des études à la Fondation Jean Jaurès. Si on attend aussi vos deux réactions, n'hésitez pas, vous nous appelez au 39-21.
Bonsoir Michel Cotta. Ravi de vous accueillir dans les studios d'Europe 1, de nouveau. Bonsoir Jérémy Pelletier.
Bonsoir.
Double rentrée politique ce week-end, les Verts, les Insoumis, leurs universités d'été. Alors, ils ne sont pas ensemble, ils le font au même moment, même s'il y a une tentative de rapprochement, mais qui semble poser problème, celle du maire de Grenoble, Éric Piolle, figure d'opposition, on va dire, à Yannick Jadot au sein du mouvement des Verts. Est-ce que c'est un signe de fracture ou pour vous les prémices peut-être d'un mouvement plus large de rapprochement ?
Non, ce qui est sûr, c'est en parlant globalement des Verts, c'est que les Verts considèrent qu'ils ont à juste titre remporté des victoires dans les métropoles et au fond ils veulent jouer solo.
Alors ils sont à la fois
Yannick Jadot pour le moment en tout cas, c'est-à-dire que tout ce que prévoyait le premier secrétaire du parti Olivier Faure sur un accord pour les élections régionales, etc., ne se fera pas vraisemblablement. Et puis reste effectivement la différence entre les deux personnages. On a l'impression quand même que l'un est plus à gauche que l'autre, mettons, et que le maire de Grenoble... Donc lui, il irait bien jusqu'à Jean-Luc Mélenchon pour envisager une opération présidentielle, en tout cas. Tandis que pour Jadot, manifestement, ça n'est pas la voie... il est plus centriste, mettons, et ça n'est pas la voie qu'il a retenue. Alors, est-ce que c'est une division profonde? Est-ce qu'ils trouveront d'ici l'élection présidentielle de quoi se rabibocher? J'en sais rien.
Alors, Jérémy Pelletier, le mouvement écolo qui est monté aux européennes, qui a confirmé avec les municipales, qui est pour le moment en passe de gérer pratiquement toutes les plus grandes villes de France, est-ce que ce parti-là doit maintenant faire de la politique?
Je crois qu'il en a toujours fait, je pense qu'il continue à
en
faire.
Oui, mais plutôt mal jusqu'à maintenant, parce que les succès électoraux n'aboutissaient pas, notamment aux européennes, n'aboutissaient pas à une transformation de l'essai ensuite.
Absolument. Et en fait, ce qui est très intéressant, pour toutes les rentrées politiques, que ce soit ELV, et ça va être le cas également pour le Parti Socialiste à Blois, ce qui est très intéressant cette année, c'est qu'en gros, les guest stars, les personnages publics qu'on attend et qui deviennent un petit peu les stars de ces universités, ce ne sont plus des grandes figures nationales, mais ce sont en fait des grands maires, ce sont les nouveaux maires. Et c'est ça qui est très intéressant, et c'est justement en ça où effectivement Europe Écologie Les Verts maintenant se doit de faire de la politique et va faire de la politique, parce qu'il a en responsabilité les 7 villes de plus de 100 000 habitants, ce qui est colossal, et donc évidemment ça l'oblige à faire de la politique. Et évidemment, quand vous faites de la politique, il y a des divisions et des divergences en interne, c'est ce qui se passe évidemment entre Éric Piolle et Yannick Jadot. Et effectivement, exactement comme vous l'avez dit, il y a une de ces deux personnes qui est beaucoup plus fréquentable aux yeux de la LFI, effectivement, qui est Éric Piolle, contrairement à Yannick Jadot, et c'est ça,
Jean-Luc Mélenchon l'a fait savoir, même avec une forme de malice, disant grosso modo, je vais en attirer un chez moi et créer la division.
Le problème, c'est que c'est l'autre qui veut attirer Mélenchon. Voilà. Chacun veut attirer l'autre chez soi. C'est comme ça qu'on naissent les conflits.
Alors, en même temps, on a le sentiment, Michel Cotta, avec la formation du nouveau gouvernement, l'arrivée de Jean Castex à Matignon, le marquage finalement maintenant clairement centre-droit ou droit d'Emmanuel Macron, qui jouait sur une ambivalence jusque-là, pourrait donner un espace d'expression justement à la gauche.
Alors, vous avez raison de dire ça, parce que on a beaucoup analysé ça, on a fait cette analyse sur la droite. La droite est gênée parce que Castex fait partie des siens. Et moi, je me disais, en regardant tout à l'heure Olivier Véran faire sa conférence, Olivier Véran, il est socialiste, lui aussi fait partie des gens et des valeurs qui ont été prises au Parti Socialiste par le macronisme. Et je me dis qu'il y a quand même un peu cet effet-là qui joue aussi. L'effet Macron joue aussi lorsque le Parti Socialiste envisage de faire une nouvelle social-démocratie. Certes, c'est tout à fait ce pourquoi elle est faite en ce moment, mais on se dit, faire une nouvelle social-démocratie avec quelqu'un comme Macron qui oscille entre la social-démocratie et le social-libéralisme, ça va être très difficile. Donc les deux, l'effet Macron, je crois, mais peut-être mon...
Jérémy Pelletier, vous écoutez attentivement.
L'effet Macron me semble jouer sur les deux bords, et à gauche et à droite.
Est-ce que cet espace à gauche, idéologiquement, on va dire, ou sociétalement qui existe, pourra réellement être occupé tant qu'il y a un Jean-Luc Mélenchon qui est dans la place.
En fait, je crois qu'il y a un élément aussi qu'il faut avoir en tête, c'est d'un point de vue de l'opinion publique et de l'idéologie en France, c'est la droitisation aussi de la société française depuis 2017. Vous avez un sondage qui est sorti au tout début de l'été, un sondage de l'IFOP. Vous savez, c'est les sondages classiques sur l'auto-positionnement des Français sur une échelle de 0 à 10. En gros, 0, vous êtes très à gauche, et à 10, vous êtes très à droite. Donc, ils ont fait la moyenne des gens qui se disaient à gauche en 2017 et des gens qui se disent à gauche aujourd'hui. En début 2017, vous aviez 15% des Français qu'on pouvait situer à gauche. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, vous avez 13%. Donc, vous avez perdu entre 2 et 3 points de personnes qui se disent à gauche. Contrairement à la droite, où à la droite, vous aviez 37% des Français début 2017 qu'on pouvait classer à droite. Aujourd'hui, vous en avez entre 39% et 40%. Donc, ce phénomène-là de droitisation de la société française, il est aussi à avoir, on doit aussi l'avoir en tête pour aussi expliquer et justifier le fait que quand bien même il y a un espace qui pourrait être laissé vacant de par ce qu'incarne Castex et ce qu'incarne aujourd'hui Emmanuel Macron, mais finalement, cet espace-là aussi ne prend pas parce que l'opinion publique aussi se droitise.
Alors, l'opinion se droitise, mais elle se verdit également, et c'est pour ça que c'est intéressant de suivre l'évolution d'Europe Écologie Les Verts ce week-end et de voir les stratégies potentielles pour les mois à venir. Nous en reparlons dans un instant après une courte pause.
Retour du débat des grandes voix sur Europe 1 avec vos invités François Claus, Michel Cotta, grande voix d'Europe 1, Jérémy Pelletier, directeur des études à la Fondation Jean Jaurès.
Oui, ça fait du bien de reparler de politique française. On a eu une grosse actualité internationale cet été. On a toujours une grosse actualité Covid, mais on sent que ça frémit de nouveau. Il y aura mardi prochain, rappelons-le, le Conseil des ministres de rentrée avec la présentation du grand plan de relance de l'économie française. Nous parlons à l'occasion de l'université d'été des Verts et des Insoumis d'une potentielle recomposition de la gauche. Michel Cotta, je voulais vous citer une phrase d'Éric Piolle, le maire de Grenoble, là, qui a rencontré Jean-Luc Mélenchon. Il y a d'un côté une droite de repli sur soi. Il y a un ultra-libéralisme, Macron, qui s'affirme de façon de plus en plus violente. Et il y a un arc humaniste, dit-il, à cristalliser. Cet arc humaniste, est-ce qu'il pourra se tendre dans les prochaines semaines?
Non, mais très bien, on voit tout à fait son intention. C'est lui qui veut cristalliser l'arc humaniste autour de lui, autour des Verts. Mais ça va être plus compliqué que ça, parce que c'est vrai qu'ils ont remporté d'énormes succès, notamment dans les grandes villes, mais c'est vrai aussi que dans le monde rural, dans la France, pour moi, les socialistes ont gardé beaucoup d'élus. De cette façon, l'élection municipale a été pour eux un souffle d'air. Donc les socialistes ne peuvent pas même envisager simplement de disparaître derrière les Verts. Alors si c'est ça qu'Éric Piolle cherche, en fédérant évidemment, et Mélenchon et tout ça, si c'est la disparition du Parti socialiste, ça va être quand même relativement plus difficile que les Verts ne le croient.
Alors, ça veut dire, Jérémy Pelletier, qu'on se disait déjà qu'un mariage à deux, insoumis et verts, paraît compliqué dans l'état des choses. Un mariage à trois, en mettant le PS au milieu, est-ce que, paradoxalement, ça pourrait être peut-être plus facile?
Alors, ce qui est intéressant,
c'est appellerait ça le programme commun, peut-être.
Finalement, si vous regardez le PS, ELV et la LFI, le parti qui s'est dit le plus près à finalement... construire un espèce d'arc commun, finalement, c'est le Parti Socialiste. Et c'est Olivier Faure, en fait, c'est sa stratégie aussi depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il a face à lui...
Du Parti Socialiste.
Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, il a face à lui aussi deux personnalités aux égaux assez importantes. Jean-Luc Mélenchon, d'une part, Yannick Jadot, d'autre part. Quand vous prenez ces deux personnalités-là, à titre personnel, je ne vois pas un se coucher pour l'autre et vice-versa. Donc c'est ça qui sera très intéressant, parce que les discours sur les alliances, et je comprends très bien pourquoi, de fait, Jean-Luc Mélenchon préfère quelqu'un comme Piolle, parce que s'il a quelqu'un comme Piolle, ça lui permet de prendre la mesure sur lui, et donc d'être lui potentiellement le candidat commun ELV, LFI. C'est différent si c'est Yannick Jadot qui a et qui est une personnalité effectivement présidentielle et présidentiable.
Michel Cotta, la guerre des égos peut tuer l'idée d'une fédération des gauches?
Écoutez, pour le moment, on ne voit pas effectivement Jean-Luc Mélenchon. D'ailleurs, il a un problème, Jean-Luc Mélenchon, auprès de ses propres insoumis, puisqu'il y a quand même Ruffin qui prépare peut-être une candidature. Il y a Clémentine Autain dont on dit qu'elle se rapproche des communistes. Donc Mélenchon, il est sans doute obligé de faire plus vite qu'on croit. Alors il dit « je ne peux pas descendre du train », je ne sais pas son expression. Mais
oui,
peut-être...
il dit aussi « j'ai un programme, moi il est prêt, voilà. Regardez, Vert,
donc,
venez discuter avec nous, mais c'est moi qui ai le programme ».
Peut-être aura-t-il tendance à faire le premier pas en premier, ce qui effectivement fermerait un peu Laporte. Mais surtout, on parle de personnalité et d'ego. Mais il y a des tas d'autres personnalités, par exemple, dans le Parti Socialiste, dont il faudra, à un moment donné, ou qui feront pareil. François Hollande. Bernard Cazeneuve, Anne Hidalgo, Martine Aubry, et tout ça, ils sont là, et chacun a sa stratégie. C'est bien ça qui rend les choses difficiles, pas seulement avec Mélenchon, mais aussi avec... Alors, je ne cite même pas Ségolène Royal, mais je devrais la citer. C'est ça qui risque de compliquer encore davantage la guerre des égaux, en tout cas.
Malgré donc le champ idéologique qui s'ouvrirait peut-être devant eux, la position des Verts, qui sont en université, Jérémy Pelletier, là, pour le moment, de vouloir d'abord fédérer l'ensemble du monde écolo, puis d'entrer dans une discussion politique, c'est quand même culturellement... pas dans leur histoire, hein. Il y a moins de 10 000 adhérents chez les Verts, et il y a 5 permanents en tout et pour tout pour ce parti qui aujourd'hui le bloc majoritaire à gauche. Cette mue-là, elle peut se faire ou pas du côté des Verts?
Bah après, il y a quelque chose qu'ils vont vivre et qu'ils ont déjà vécu. Ce sont des primaires, et ce sont des primaires avant la présidentielle. Et vous vous souvenez évidemment des primaires qui avaient donné vainqueur Eva Joly face à Nicolas Hulot. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que potentiellement, si on a les deux candidats qu'on pense avoir, à la fois Piolle et Yannick Jadot, en fait, on va se retrouver avec le même clivage entre Eva Joly et Nicolas Hulot. C'est-à-dire un candidat, Yannick Jadot, plutôt sur une ligne, on va dire, pragmatique, prêt à gouverner et prêt peut-être à faire des accords effectivement avec le centre, et un autre candidat, à savoir Éric Piolle, qui, comme Eva Joly, va être plutôt le puriste, va être sur une position assez identitaire. Quand je dis identitaire, c'est identitaire en termes de vert et en termes de couleur politique. Et ce qui va être très intéressant, c'est qu'en fait, on va retrouver exactement le même clivage que ce qui a donné finalement presque la mort de LV à la présidentielle de 2012.
Ouais, le mot de la fin pour vous, Michel Cotta.
C'est que les leçons des primaires n'ont pas été retenues.
Voilà. Les leçons des primaires n'ont pas été retenues et les fractures sont bel et bien là, mais ça va être intéressant
à
observer.
La gauche désespère la gauche.
Voilà, parfois on met des plâtres aussi, ça permet de réduire quelques fractures, mais on a vu, elles sont multiples. Merci beaucoup d'être venu nous apporter ce soir sur Europe 1 vos réflexions, Michel Cotta et Jérémy Pelletier.